Décryptualité, semaine 17. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, le sommaire, RTBF Info, digitalisation de la justice, le ministre veut relancer le processus, le chantier est immense. Un article de Annick Merckx. Ça se passe en Belgique, ça.
Exactement, et dans les ministères là-bas, ils reçoivent du matériel en ce moment, qui est déjà obsolète en partie pour certains éléments, mais bon, bah voilà, hein, ça arrive dans pas mal d'endroits, et notamment en administration. Et c'est l'occasion d'étudier un petit peu les fonctionnements et l'usage, bah, notamment du logiciel libre, pour mettre en place de l'informatisation, ce qui pourrait être utile. Hein, bah, on se doute que dans ce pays comme dans d'autres, la justice a des problèmes de moyens et de temps. Eh bien, informatiser tout ça, utiliser du logiciel libre pour être un peu tranquille sur le long terme, c'est des bonnes étapes et il faut prendre ça en main là, tout de suite, maintenant.
Challenge face au Covid, voici les hackers du service public, un article de Léa Lejeune.
Donc ça parle un peu des outils qui sont en train d'évoluer en ce moment et qui sont faits par des citoyens comme toi et moi qui prennent les données, les capacités aujourd'hui qui sont fournies informatiquement pour proposer des outils qui vont être en complément ou parfois même remplacer ou se substituer à d'autres proposés par l'État. Donc il y a un petit peu de tout, hein, des outils de statistiques, des outils pour déclarer qu'on a été malade ou qu'on est malade. Donc il y a un peu de mouvement là-dessus. Un côté un peu start-up nation, bon bah pourquoi pas, après tout. Ce qui est pas mal, c'est que derrière, souvent, et en général, c'est du libre.
Le monde informatique, le gouvernement étoffe sa politique publique d'open data et logiciel libre, un article de Jacques Cheminat.
Donc il y a une circulaire Castex qui vient de sortir et qui parle effectivement de lancer une mission du logiciel libre, des communs numériques. Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. L'April a réagi, donc il y a un article sur le site qui en parle. Je pense que ce sujet, on va sûrement le rencontrer encore les prochaines semaines et peut-être qu'on en parlera de manière plus précise.
Ouais, espérons que ça donne des choses intéressantes. Dernier article, ça me donne une impression de déjà vu. Le monde informatique, l'université du Minnesota, interdite de contribution au noyau Linux. Un article de Célia Seramour.
Et oui, on avait fait un super podcast sur le sujet. Il n'y a pas longtemps.
La semaine dernière, en fait.
Bah voilà, et donc, effectivement, il y a des petits malins, des profs, hein, rien que ça, qui se sont dit, on va tester si on peut mettre du code hypocrite ou du mauvais code dans le noyau Linux. Ils se sont fait repérer, ils se sont fait interdire, interdire d'accès et de contribution. Et finalement, il y a eu des discussions, il semblerait que l'interdiction a été levée, parce que bon, ça va, c'était pas méchant non plus. Ils se sont fait engueuler, ils se sont fait taper sur les doigts.
Ils le monde entier en a parlé. Mondialement aussi, voilà.
Voilà, bah, mais ils se sont fait connaître, hein, voilà. Il n'y a pas de mauvaise publicité, on dit.
Oui.
Donc voilà.
Très bien. Donc cette semaine, on va parler de quoi?
Alors, c'est un autre sujet qui était d'actualité il y a peu de temps encore, il y a même 2 semaines, mais on n'a pas creusé en profondeur dessus. C'est un sujet qui est toujours amusant parce que ça regroupe l'informatique en nuage et les GAFAM qu'on aime détester.
Et moi, puis, je trouve pas très amusant ce sujet.
si. Donc, on aime détester les GAFAM. Et puis, en face, y a des éditeurs de logiciels libres qui sont un peu embêtés avec les GAFAM et ce qui est fait de leur logiciel.
Oui. Donc, on parle d'éditeurs de logiciels libres à visée professionnelle. Donc, il y a eu plusieurs nouvelles dont on a parlé dans la revue de presse. Notamment Elasticsearch, qui est un outil de recherche dans des bases de données des gros volumes d'informations.
Il y a aussi MongoDB, qui est une base de données, elle aussi orientée documents.
Tout à fait. La semaine dernière, on avait parlé d'un troisième truc. C'était quoi? J'ai déjà oublié le nom parce que je ne connaissais
pas
le
logiciel. C'est Grafana. C'est plutôt un dashboard, un système de suivi, des logs, des choses comme ça.
Voilà. Et donc, tous ces gens-là se plaignent qu'il y a des grosses entreprises, des mastodontes de l'informatique qui utilisent leurs solutions et ne contribuent pas, même pas financièrement, à leur développement. Du coup, ils sont un peu fâchés et ils se disent si c'est pour bosser gratuitement pour des gens qui sont riches à milliards... si c'est comme ça, on change notre licence.
Et dans une large mesure, juste pour te montrer, c'est qu'ils sont utilisés au cœur des infrastructures en nuage. Donc il y a pas mal de gens qui utilisent MongoDB, Elasticsearch, Grafana, vraiment pour en faire des trucs très importants. C'est aussi important qu'une base de données Oracle, par exemple, pour certains. Donc c'est quelque chose de vraiment mis en avant et très utilisé sur les informatiques en nuage. Et que ce soit par Amazon, mais aussi Google, Microsoft, Oracle, tout le monde les utilise, ces briques-là. Mais effectivement, ils en ont marre. Hein. Et donc, comme ils en ont marre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégainé un peu l'arme ultime.
Voilà,
en tout cas,
ils ont changé de licence et pour certains d'entre eux, choisi des licences non libres. Ça a été notamment le cas d'Elasticsearch, qui est passé sur une licence qui s'appelle la SSPL.
C'est aussi le cas de MongoDB.
Qui a essayé d'obtenir auprès de l'Open Source Initiative la reconnaissance de cette licence comme étant une licence libre. Et l'Open Source Initiative a dit non, c'est pas libre. Donc on a aujourd'hui 2 éditeurs importants de solutions qui sont très bonnes solutions, très connues, qui faisaient du libre et qui aujourd'hui n'en font plus. Donc c'est quand même très fâcheux. Et très décevant.
Le pire, c'est que bah, y a eu un coût en retour de la part d'Amazon.
Alors effectivement, c'était pour Elasticsearch, ils ont dit, comme votre code est libre, hein, puisque la dernière version publiée sous licence libre, la licence ne change pas, hein, c'est pour les versions d'après. Ils ont dit, bah, nous on prend le code et on le fork, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont repris le code source, ils ont fait leur propre version. Et effectivement, on imagine qu'une boîte aussi colossale et aussi riche qu'Amazon, sur un logiciel qui est aussi essentiel à son activité, peut se permettre de faire sa propre version.
Donc ils ont, en français, en bon français, ils ont fourcheté. Parce que fork, c'est fourchette.
Oui, c'est ça, fourcheté, si tu veux, d'accord.
Bah, je sais pas comment on traduit hein, en français, c'est plus compliqué.
Voilà.
Et je crois que c'est pareil avec MongoDB. Ouais,
Grafana a pris une autre option, beaucoup plus plaisante, et donc il faut qu'on voit ce que ça donne dans la durée. Ils ont choisi une autre licence libre.
Donc eux, ils sont passés en AGPL version 3, et l'AGPL, donc c'est l'Affero General Public License, il me semble, et ben c'est une licence qui est assez contraignante, c'est-à-dire que quand on l'installe sur un serveur et qu'on la rend disponible depuis un serveur, comme le fait Amazon, et bien si jamais Amazon fait des modifications à ce logiciel, ils sont obligés de recontribuer à la communauté et à son éditeur d'origine notamment, les contributions.
Sachant que dans le monde professionnel, les gens aiment bien les licences non copyleft, c'est-à-dire où on peut refermer le code, parce que les entreprises sont plus à l'aise, surtout si elles veulent mixer, ce qui se fait très souvent, des licences libres avec des licences non libres, parce qu'ils ont peur, par les effets copyleft, hein, d'obligation de reverser, que le code qu'ils ne veulent pas rendre libre soit obligé de devenir. C'est une autre stratégie que les deux autres éditeurs, donc on espère que leur choix va s'avérer fructueux, parce que ce serait voilà, un bon signal pour le libre et pour montrer que le modèle est encore pertinent.
On peut imaginer qu'ils ont choisi l'AGPL version 3, justement parce que la licence qui avait été testée juste avant, la SSPL, a été refusée comme licence libre, et que bah ils ont dû se dire « Ouais, non, on veut rester dans la communauté, on veut être adoubé en tant que logiciel libre, parce que c'est important, il y a une image, il y a une participation à la communauté qui est importante bah, pour moi et pour plein d'autres. » Et donc, ils sont effectivement passés à l'AGPL V3. Petit détail, effectivement, les deux autres se sont fait un petit peu avoir par Amazon. C'est-à-dire que certes, ils sont partis avec leur code sous le bras, ils sont partis avec leur logiciel, ils ont retiré la liberté dans leur licence, en gros. Mais bah, Amazon a repris leur code, ils l'ont fourcheté, et, cerise sur le gâteau, Amazon a recontribué à la dernière version libre de ce code
oui.
qui était devenu
donc,
ensuite pas libre.
En libre ouais. Ces affaires-là bon, sont importantes et elles font écho également à des choses dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 mois environ, où dans certains projets, donc là pas des projets de code, mais notamment OpenStreetMap et Blender, un logiciel de 3D dont on avait parlé, où il y a des gros acteurs qui sont arrivés, qui ont voilà, mis un paquet d'argent sur la table en disant « Votre truc, on aime bien ça ». OpenStreetMap, notamment, le plus gros contributeur de l'année dernière, je crois, c'était Apple, par exemple.
Et puis il y a Microsoft, hein, qui aime beaucoup aussi.
Et donc, d'un côté, c'est un gage de succès, et de l'autre, bah, les gens dans les comités, certaines personnes s'inquiètent en disant « Mais qu'est-ce qu'on va peser face aux milliards de ces boîtes-là » Et est-ce qu'on risque pas finalement de se faire bouffer par ces entreprises ? Finalement, ces exemples qu'on vient de mentionner là sur ces 3 éditeurs laisse penser que le danger est réel, puisque bah voilà, Elasticsearch, maintenant, ils ont un fork avec une entreprise qui fait du libre à leur place, qui a une surface bien supérieure à la leur.
Et je pense que tu as raison de mettre le doigt dessus. Je pense que cette question-là, elle existe depuis les tout débuts, non pas même du logiciel libre, mais du logiciel tout court, parce que les universitaires qui contribuaient du code au départ, hein, qui n'étaient pas libres ou pas libres, hein, il était fourni avec les machines souvent, eh bien, ce logiciel, il s'est fait enfermer à un moment donné par les gros éditeurs et les gros vendeurs de matériel. Et donc, cette histoire qu'on a vue dans les années 60-70, il se répète en continu. Il n'y a pas de limite. Hein. Microsoft, Apple ont refermé du code libre. Bah, moi, c'est ça qui me fait plaisir avec Grafana. C'est qu'on a un moyen de défense qui a été imaginé dans les années 80. C'est ce copyleft qui est cette gauche d'auteur, hein, en opposition au droit d'auteur. Et c'est la gauche d'auteur qui a été imaginée comme outil légal pour faire une prise de judo au droit d'auteur habituel et utiliser le droit d'auteur contre lui-même pour se protéger de ça, un peu. Mais
alors, la question, c'est est-ce que c'est suffisant ? C'est-à-dire que dans le logiciel libre, on a, en général, c'est pas obligatoire, mais très souvent, une gratuité. C'est-à-dire qu'on va essayer de vendre du service, etc. Mais si on est une entreprise suffisamment grosse et qu'on arrive à avoir des compétences en interne, on va pouvoir accéder au code gratuitement. Nous, on a croisé à l'occasion des développeurs qui font des briques logicielles et qui ne sont pas payés, en général, qui ne sont pas financés. On se souvient de la faille Heartbleed sur un élément de sécurité absolument essentiel que tout le monde utilise et où on a découvert que le logiciel était sous-financé et que les gens faisaient ça en quasi-bénévole dans leur coin.
Et c'était rien d'autre que le petit cadenas qu'on a dans les navigateurs, en gros. Hein.
Voilà, donc je veux dire, un truc que tout le monde utilise partout sur Internet. Enfin, ça a touché des milliards de gens. Et on s'est aperçu que voilà, c'était sous-financé. Donc il y a plein d'exemples. Là, on a parlé de grosses entreprises, mais il y a plein de gens qui travaillent avec pas grand-chose. Et pendant ce temps-là, il y a, c'est ce qu'on appelle en économie la question du free rider, donc celui qui voyage gratos, en fait.
Le parasite, hein, tu peux le dire.
Voilà. Et qui, en gros, prend sans payer. On a tous tendance à faire ça. On n'aime pas payer. Personne n'aime ça. Et en fait, ça pose un peu cette question de dire, bah voilà, on a des mastodontes de l'informatique, notamment les GAFAM, qui se sont développés parce qu'ils avaient accès à du logiciel libre. Donc un Google, un Facebook n'auraient pas pu décoller s'il avait fallu qu'ils payent une licence pour chaque base de données et une licence pour chaque serveur qu'ils déployaient et qu'ils n'avaient pas le droit de mettre les doigts dedans parce que le code était propriétaire. Et aujourd'hui, ils gagnent tellement d'argent, ils ont tellement de moyens, et ces moyens se sont construits grâce à du logiciel libre, et du travail aussi, mais grâce à du logiciel libre quand même. Et aujourd'hui, ils ont cette capacité à finalement en tirer des bénéfices et gagnent aujourd'hui tellement d'argent que bah, finalement, on se demande si leur poids fait que ça ne risque pas d'annuler les bénéfices du logiciel libre pour le plus grand nombre.
Alors, c'est un problème qui est là aussi relativement ancien. Moi, que j'associe au modèle, les problèmes des modèles économiques. Comment est-ce qu'on finance le logiciel libre et donc les gens qui développent le logiciel libre? Et effectivement, les GAFAM, eux, ils ont des finances et eux, ils s'autofinancent, ils se financent par plein de moyens, la bourse hein, notamment, mais ils ne financent pas forcément le logiciel libre qu'ils utilisent. Et ça, cette problématique du modèle du logiciel libre, je sais pas, comment tu le vois, toi? Dans les années 80, on en parlait déjà, non? Le modèle du développement.
Dans le logiciel libre, il y a une économie du développement, une économie du savoir. Donc, c'est une démarche très, très universitaire. Mais justement, cette dimension vraiment commerciale, elle a été mise un peu de côté. Alors, il y a cette ouverture très à l'américaine en disant, c'est ouvert, faites du business avec, c'est très bien, ça va contribuer à diffuser le code. Mais finalement, je pense qu'il y a peut-être une lacune en termes de réflexion stratégique sur la question de la relation de pouvoir et du poids que les uns peuvent avoir avec les autres. Si on prend Amazon aujourd'hui, par exemple, Amazon, comme les autres, a utilisé massivement du logiciel libre. Donc, ce que le grand public sait moins, c'est qu'ils proposent des services de cloud, hein, donc d'hébergement de services sur leur propre serveur. Et c'est une offre énorme, assez incontournable. Tout le monde utilise ça, ils font énormément d'argent avec ça. Et donc, on peut se dire que finalement, eux ont trouvé le moyen de faire de l'argent et avec le logiciel libre. Ils ont trouvé le modèle commercial. Bah, c'est d'offrir le service avec tout sur leur serveur. Et comme on aime bien le répéter, que le code soit libre sur leur serveur ne change pas grand-chose dès lors qu'on est dépendant de leur service. Ils font tourner ce qu'ils veulent, ils peuvent regarder nos données, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec.
Petite remarque, il y a un autre acteur qui est très important dans l'informatique en nuage, c'est Red Hat. Red Hat, c'est un éditeur très connu de logiciels libres. Donc eux, ils avaient un modèle où ils faisaient du logiciel libre, ils contribuaient massivement au logiciel libre, mais pourtant, ils sont rentrés en bourse, ils avaient des reconnaissances financières, ils ont été rachetés très cher par IBM. Et aujourd'hui, le cœur d'IBM, c'est aujourd'hui largement le cloud et les services qui sont fournis par Red Hat. Mmh. Il semblerait qu'ils sont un peu phagocytés. Et Red Hat bah, fournit une solution de nuage libre, pour l'essentiel à ce que j'en sais, en tout cas. On est plutôt content qu'ils y arrivent, hein, parce qu'ils font du logiciel libre depuis longtemps et ils sont plutôt honnêtes dans leur démarche. Le problème, c'est qu'Amazon n'est pas aussi honnête. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai.
Et le problème, c'est que même Red Hat ou n'importe qui, si tu t'appuies sur en fait, la bonne foi des gens en te disant « voilà, eux, ils sont gentils bah, », tu n'as aucune garantie que ça va durer éternellement. Les gens changent, les organisations changent.
Et des fois, tu te fais racheter par IBM.
Bah voilà. Et donc, tu pourrais te dire que finalement, le cloud, ça devient une forme de propriétarisation de l'informatique, non pas du code, mais des données, des usages, etc. Quand tu es un très gros acteur avec beaucoup de moyens, tu peux faire des économies d'échelle et donc du coup, tu peux arriver avec des offres extrêmement performantes et finalement revenir sur des modèles avec des mastodontes qui contrôlent tout. Bah, quand quelqu'un n'est pas d'accord, paf. Ils font comme avec ces logiciels, hein, ils les forquent et puis ils se les accaparent. J'ai pas de réponse absolue là-dessus, mais pour moi, ça pose une question. Ce que j'ai toujours trouvé très intéressant dans le modèle du libre, c'est que ça part de l'idéal, toute la philosophie, en passant par la pratique avec les licences, donc le côté légal, et après, effectivement, le vrai code qu'on va écrire et qui va tourner effectivement dans des machines. Et j'ai toujours trouvé assez brillant cette idée d'avoir un continuum qui va de l'idée à la pratique.
Oui, mais continuum auquel il manque un petit morceau quand même, c'est la partie pécuniaire.
La partie pécuniaire, la partie commerciale, et la question du pouvoir au travers de l'argent, et qui peut-être est une faille du modèle. L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, je trouvais que tous ces exemples et ces trucs qui sont en train de bouger étaient assez significatifs là-dessus. En tout cas, d'ici à la semaine prochaine, moi je vais émettre des actions d'écryptualité, puisqu'il faut s'adapter, et on vous les vend la semaine prochaine.
Bah, je t'en achète 16 millions d'euros, voilà. Allez, première action, déjà là t'as une grosse valeur qui vient de tomber.
Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.